Et bonjour et bienvenue à Musical Park, le podcast de la musique de film. On pourrait changer de nom quand on en a marre de Total Tracks. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis ?
On en a jamais marre de Total Tracks.
Non, c'est vrai. Bonjour Rafik.
Bonjour David.
Bonjour Olivier.
Bonjour David.
Comme vous pouvez l'entendre, nous voilà de retour dans l'univers impitoyable de la licence et surtout des films dont la musique est composée par Michael Giacchino.
Toujours Michael, hein ?
Moi
toujours,
j'aime bien.
Ouais, on est resté
ouais,
sur Michael.
Michael Giacchino. Et puis surtout, on va s'y étendre pour cet épisode, puis pour le prochain aussi, parce qu'il y a encore pas mal de films à voir.
Voilà, on s'est mis un challenge, on va finir en deux épisodes, une période de 8 ans. On a vu large, hein, 8 ans, deux épisodes, on l'a pas fait depuis longtemps avec Giacchino, mais on va tenter quand même.
On va tenter parce que nos êtres de lumière sont très attentifs au rythme qu'on peut avoir sur les épisodes, et là, je pense qu'ils arrivent au bout de Giacchino, eux aussi.
Oui, puis on a envie de parler d'autres choses, on a envie de varier un peu les sujets, donc rester trop longtemps sur le même truc, c'est aussi un peu usant au bout d'un moment.
Alors Rafik, nos êtres de lumière, est-ce que tu as des nouvelles de nos êtres de lumière ?
Oui, bien sûr. Déjà, chantons tous pour commencer.
Oui.
Chantons tous en cœur la joie d'être réunis, d'aimer, de servir. Oui, chantons tous en cœur. Merci pour ce podcast.
Si seulement vous aviez la vidéo.
On va voir la tête.
Parce que là, on a le père Rafik.
C'est ça.
Qui nous fait son prêche.
Donc nos êtres de lumière, pour ceux qui découvrent Total Tracks avec cet épisode, ce sont nos contributeurs, nos bienfaiteurs.
Nos producteurs,
nos mécènes. Ce sont eux qui nous ont permis notamment de reconstruire le toit de notre abbaye l'an dernier. Ils donnent régulièrement sur les plateformes Tipeee et sur les plateformes Patreon des deniers pour que Total Tracks puisse exister, pour qu'on puisse servir le Seigneur.
Bien sûr.
Voilà, grâce leur soit rendue.
Dans la joie et la lumière. Ils sont notre lumière et c'est pour ça que nous les appelons les êtres de lumière.
Exactement. On peut nous retrouver sur Tipeee et sur Patreon.
Avec différents paliers qui offrent de différents privilèges, on va
exactement.
Dire. Vous avez accès à des épisodes inédits, notamment.
L'un des premiers privilèges étant de pouvoir aussi accéder à notre Discord, n'est-ce pas, professeur ?
Ah, ça discute beaucoup, hein. Ça part dans tous les sens. J'ai presque du mal à suivre. Et c'est très bien.
Comme quoi, les êtres de lumière sont aussi des êtres enflammés.
Ils peuvent l'être, parfois. Ils peuvent aussi tout simplement réagir à ce qu'on dit dans nos épisodes. et vous l'avez compris, nous ne sommes pas forcément des enfants de cœur. Nous avons aussi nos opinions. Et je le précise tout de suite, vu les deux épisodes dans lesquels on se lance, alors que jusque-là, sa carrière a quand même démarré avec une quantité assez impressionnante de chefs-d'œuvre et de grands films, on arrive à une période où ça va être plus compliqué. Non pas parce que Giacchino nous fait de mauvais choix, mais tout simplement parce que l'industrie du cinéma hollywoodien a beaucoup changé sur ces dernières années.
Et on va démarrer en 2015 avec une production Kennedy, Marshall, Amblin, Universal, Legendary Entertainment, Dentsu, Fuji. Il y a tellement de gens dans cette production.
Mitsubishi, Pepsi Cola.
C'est ça. Un film de Colin Trevorrow à qui l'on doit quand même des chefs-d'œuvre. Hein. On doit le dire. Des films qui nous ont marqués comme...
Qu'est-ce qu'il avait fait avant ?
Mais pas grand-chose. Et après non plus d'ailleurs. On parle de Jurassic World, l'énième suite, reboot, tout ce que vous voulez.
Oh, c'est pas énième en fait. Ça n'est que le quatrième finalement. Après une trilogie dans les années 90. Donc il s'est quand même passé 15 ans avant qu'il réactive la bestiole. C'est le début d'une nouvelle trilogie qui s'appelle non plus Jurassic Park, mais Jurassic World.
Comme on a beaucoup de films à traiter dans cette émission, on ne va pas forcément passer beaucoup de temps sur chacun de ces films. On en parle surtout parce que la musique nous intéresse. Concernant donc la franchise Jurassic World, c'est vraiment un reboot opportuniste, mais qui est quelque part magnifiquement traduit par un petit détail. Vous vous souvenez probablement que dans le premier film, le moment de stupéfaction parvenait lorsque les héros découvraient leur premier dinosaure. Et la mise en scène nous avait bien préparé à cet instant et on était vraiment accrochés, agrippés à notre siège. Et enfin, on l'a vu.
Oui, et puis c'est un moment qui est vraiment marquant et qui reste avec tous les spectateurs
exactement.
Qui l'ont découvert à l'époque.
Dans ce film-là, l'équivalent de ce moment, c'est lorsque deux enfants découvrent un centre commercial. Certes, mais je pense que ça en dit long sur le caractère peut-être inconscient hein, du film et de ceux qui l'ont fait. C'est un pur projet de commerciaux, quoi. Et donc, tous les noms que tu as cités, les Kathleen Kennedy et autres, ne sont en fait que des exécutants sur un projet comme ça.
Voilà, Spielberg est d'ailleurs fait partie des producteurs du film. Hein. Et il a été assez présent sur le premier, au moment de l'écriture.
Moi, j'avoue que j'ai accueilli le projet avec scepticisme, parce que j'étais un grand fan du premier film, et je me disais, oula, ça va être compliqué, comme pour toutes les franchises hein, qui perdurent, de renouveler le truc. J'en attendais tellement rien qu'au bout du compte, j'ai pas passé un si mauvais moment. Bah déjà, je trouve que la musique de Giacchino aide beaucoup à faire passer la pilule.
Ah, oh, c'est clair.
On pourrait d'ailleurs ne se contenter que de ça. Non, c'est surtout que le sens de l'émerveillement est totalement disparu. Il a été totalement lavé et à aucun moment le film ne cherche à le réactiver.
C'est du bigger is better, c'est-à-dire oui, c'est toujours plus gros, toujours plus puissant. Il y a quand même un petit passage que je trouve assez sympa, c'est quand il retrouve les ruines du premier parc dans l'ancien magasin avec les vieux jouets et les vieilles licences, on va dire.
Oui, mais enfin, c'est un arrière-plan un peu flou. On s'en fout, ça serait tourné dans le garage à côté de chez moi, ce serait pas...
Ouais, t'es dur. Moi, je trouve que c'est un passage sympa, il y en a un ou deux comme ça qui sont pas mal, mais c'est vrai que évidemment le film est beaucoup moins spectaculaire et beaucoup moins émerveillant que c'est normal. Les dinosaures de synthèse et les créatures de synthèse, c'est bon, on les a vus.
Il y en a plein, il y en a beaucoup plus d'ailleurs que dans les films précédents. Il y a énormément de créatures qui sont bien faites, hein, c'est pas le sujet. C'est même filmé plutôt correctement. Le mec sait où placer sa caméra, quoi. Mais c'est tout. C'est plutôt un film qui est construit sur les thrills, c'est-à-dire sur les attaques de dinosaures, les séquences d'action, mais tout le reste qu'il y avait dans la précédente trilogie a complètement disparu, effectivement.
Et notamment ce sens de l'émerveillement.
Ouais. Qui passe aussi, Rafik, au travers du regard des personnages. Et on avait une collection de personnages incroyables dans les Jurassic Park, enfin, surtout dans le premier.
Ah oui, mais les personnages, ça s'écrit, ça se prévoit. Mais ça, il faut que ce soit une décision qui vienne de tout en haut, ce qui n'est pas le cas. On va pas accabler Colin Trevorrow. Comme beaucoup de ces cinéastes sur ces 10 dernières années, c'est des gars qui, en fait, font un film qui est repéré à Sundance ou à Montréal, voilà. Et immédiatement, les studios leur mettent la main dessus pour les balancer sur des projets à 200 millions. Ils ont évidemment pas la maturité pour des projets aussi énormes.
Voilà, puis même ils l'auraient, on leur laissera de toute façon pas réaliser les scènes d'action et les séquences d'effets spéciaux.
Et de fait, voilà, ils sont complètement pris par la machine, ils ne font que suivre en fait un train qui a déjà été lancé sans eux. Donc on va pas dire du mal de Trevorrow.
Non, c'est pas l'idée.
Quand tu dis que c'est bien filmé, oui, effectivement, il faut rappeler aussi que ces séquences d'effets spéciaux, elles sont quasi prévisualisées, parfois même avant que le réalisateur ait été signé.
Mais c'est toujours comme ça, c'est juste qu'on aurait pu s'attendre à ce que Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, fille quand même de Ron Howard.
Elle fait un truc quand même mémorable dans le film Bryce Dallas Howard, c'est qu'elle se balade dans tout le film, dans avec les séquences d'action avec des talons aiguilles.
Oui, c'est vrai, ça devait pas être évident. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le film n'est pas complètement porté par les personnages alors que ça aurait dû. Vu qu'ils se sont donné les moyens de se prendre des stars et des gens intéressants, c'est un peu dommage.
Le film est regardable, c'est un divertissement vite fait, quoi. Mais rien de plus. N'attendez pas du tout le choc qu'on a vu avec les précédents.
Nos auditeurs ont dû le voir.
De quoi ça parle, ça se résume en deux secondes, c'est simplement qu'ils ont reconstruit le parc sur l'île où se déroulait le premier film. Cette fois-ci, c'est fonctionnel, ça marche, il y a des millions de touristes qui y vont, et évidemment, il y a un truc qui va partir en couille, il y a un dinosaure transgénique qui va s'échapper et foutre le bordel, et tout va revenir à ce que c'était dans le premier film, c'est-à-dire la
catastrophe.
L'anarchie, voilà.
Ok, si on écoutait un petit morceau, et on en parle après.
On écoute un morceau ?
Ouais. Moi j'ai très envie.
Allez, on va écouter un morceau qui s'appelle As the Jurassic World Turns, qui est un morceau donc écrit par Michael Giacchino, qui présente sa propre thématique à la place de celle de Williams de la précédente trilogie. Donc un thème un peu comme ça, à la fois émerveillé et héroïque, qui surpasse en fait ce que le film lui demande de faire finalement. Et puis des chœurs, et puis des percus, et puis tout ça. Et c'est sa vision de Jurassic World, dans le respect de ce qu'a fait Williams, mais à la manière de Giacchino. Donc on écoute ça, et puis je vous parle un petit peu de la musique après.
C'est parti. Bon, c'était pas évident, même pour Michael Giacchino, de marcher sur les traces du père Williams. Et moi, personnellement, je trouve qu'il s'en sort super bien.
Oui, il le fait avec beaucoup d'aisance.
Le thème de Jurassic World, donc, est majestueux, entraînant, marquant. Et au moment où le disque est sorti, j'ai dû l'écouter en boucle pendant pas mal de jours. C'était très très beau. Il y en a un autre thème aussi très marquant dans le film.
Il y en a plusieurs. Il y a beaucoup de nouveaux thèmes dans le film. Tout en tirant son chapeau aussi au maître John Williams, puisqu'à un moment donné, assez rarement sur la durée du film, mais il cite le thème classique de Jurassic Park. Donc il y a plusieurs morceaux qui font référence à Jurassic Park. Il y a aussi un morceau qui fait référence à la musique de Jurassic Park, le jeu vidéo qui a marqué les débuts de Michael Giacchino en 1997. Donc tout ça est recomposé pour faire un tout qui est parfaitement harmonieux. Ça marche très très bien à l'image, ça marche très très bien sans l'image, ça c'est important aussi.
Ouais, puis c'était bien vu de sa part de se faire un auto-hommage en fait, puisque je pense pas que ce soit de notoriété pour la plupart des spectateurs ou même des amateurs de cinéma que Giacchino a effectivement démarré sur la franchise Jurassic Park.
Bah, il pensait en fait que personne le remarquerait et il s'est rendu compte en allant sur les réseaux sociaux qu'il y avait pas mal de gens qui avaient capté et que donc son score pour son premier jeu vidéo était connu en fait par les amateurs de musique de film. Voilà, et donc lui il trouvait ça aussi assez impressionnant de travailler sur un projet qui a été initié au départ par Williams, mais en même temps il racontait qu'il a toujours grandi avec Williams depuis Rencontre du troisième type en fait, que ça a nourri sa propre cinéphilie et sa propre composition et que donc tout ce qu'il pouvait c'était faire de son mieux pour essayer de se mettre aussi à la hauteur que possible. Et moi je trouve qu'il s'en tire franchement très très
ouais,
bien.
Ouais, il s'en tire
c'est
bien.
Pas de Williams, c'est du Giacchino, mais c'est quand même très bien quoi.
Le titre que Olivier nous a donné pour ce morceau fait référence, je ne sais pas pourquoi, à une des plus célèbres séries américaines, As the World Turns, qui est un soap qui a été diffusé pendant quelque chose comme une cinquantaine d'années aux États-Unis sur CBS. Voilà.
Mais parce qu'il y a toujours des jeux de mots dans tous les noms de pistes de Giacchino. Je vous disais dans l'épisode précédent qu'il y avait un morceau qui était le End Credits Dawn of the Planet of the Apes, qui s'appelait simplement End Credits. Et en fouillant dans les interviews de Giacchino, j'ai découvert que c'était un loupé et qu'ils n'avaient pas mis le bon titre et qu'ils avaient mis le titre basique en fait, mais que lui il avait prévu un truc à l'époque. Et donc à chaque nouveau morceau, c'est pas lui qui a initié le truc, c'est son ingé son qui s'appelle Steven Price et qui depuis le début ils travaillent ensemble depuis quasiment les débuts de Giacchino avec un orchestre et le mec part toujours dans des délires et donc c'est reproduit dans les titres des morceaux qui parfois ne sont pas très évocateurs de la scène qu'ils illustrent dans le film justement parce que c'est surtout avant tout des jeux de mots.
Il semblerait que la relation entre Colin Trevorrow et Michael Giacchino se soit bien passée.
Oui, et puis je pense que Trevorrow a su tout de suite qu'il avait de l'or entre les mains en ayant Giacchino et qu'il l'a surtout laissé faire ce qu'il savait faire sans lui mettre la pression sur des choses un peu annexes en lui disant simplement fais ta musique comme tu le penses et ça devrait aller très bien au vu de ce que tu as fait sur les films précédents sur lesquels tu as travaillé. Effectivement, le score est vraiment vraiment remarquable, je trouve. C'est encore une période où il est suffisamment créatif pour satisfaire tout le monde. Franchement, bon travail, bravo Michael.
Très bien. Bah on va enchaîner très très vite avec l'année suivante.
C'est l'épisode des franchises, là, de toute façon.
Mais oui, et on retourne dans la franchise Star Trek, mais cette fois-là, sans J.J. Abrams.
Bah, il est là comme producteur.
C'est ça, bah oui, il lâche pas les sous. C'est Justin Lin qui est un réalisateur de films d'action, a priori. Puisque...
Oui, de pas mal de Fast and Furious. C'est l'équivalent réalisateur d'un cascadeur, en fait. C'est un mec carré qui fait les choses proprement et sans aucune inventivité de quelque forme que ce soit.
Un script aussi, cette fois-ci, géré entre autres par Simon Pegg, qui joue un rôle, bien sûr, dans cette nouvelle franchise, mais qui est un scénariste aguerri, hein, puisqu'on rappelle qu'il a démarré dans la télévision britannique dès les années 90. Il a écrit notamment la série Spaced pour Edgar Wright. Il y a aussi un esprit un peu déconnant et geek qu'on peut retrouver dans sa plume.
Oui, on lui a demandé d'être plus inclusif, c'est-à-dire faire un Star Trek qui soit plus facilement accessible au grand public qui n'a pas les bases de Star Trek, en fait.
Encore une fois, on s'éloigne le plus possible du cœur du sujet, ce qu'on peut reprocher d'ailleurs à ces nouveaux films.
Pourtant, en même temps, et Giacchino disait la même chose que moi, donc on est tombé d'accord là-dessus, c'est que le film ressemble beaucoup plus à un épisode de la première série Star Trek qu'à un film développé pour vivre sa vie de manière indépendante. Ils sont repartis vers l'aventure.
J'ai pas du tout accroché à celui-là, j'avoue. À part une scène, et dont on va parler puisque c'est la scène dont tu as choisi le morceau, puisque c'est probablement la meilleure scène du film et le meilleur morceau du film.
C'est le meilleur morceau du film. Globalement, la musique est très bien, encore une fois. Hein. Giacchino, il boucle la boucle initiée avec les deux précédents. Et là, il y a une séquence où l'Enterprise arrive sur une base spatiale qui est un truc énorme, avec plein de races multiculturelles, etc. Et on découvre comme ça cette base avec une musique très... romantique qui pour moi évoque très clairement encore une fois John Barry. Et c'est un morceau qu'on vous avait déjà mis dans l'épisode qu'on avait consacré à Star Trek, où on avait évidemment les trois films de Giacchino. Et là, c'est une autre version, puisqu'on avait à l'époque la version du film, là, c'est une version alternative qui était sur l'édition Deluxe du disque. C'est toujours le thème du Yorktown, qui est le nom de cette fameuse station spatiale.
Qui n'a aucun sens, hein, cette station spatiale, tellement que tout est imbriqué. Par contre, ça donne une jolie idée, c'est que l'Enterprise rentre à l'intérieur de la station, et c'est pas le vide de l'espace dans la station, c'est une station atmosphérisée, et dont la gravité, en fait, rappelle un peu les tableaux d'Escher, c'est-à-dire qu'il y en a dans tous les sens. Ça rappelle beaucoup la magnifique scène de Tomorrowland où la fille visite le futur. Et ben, cet intérieur du Yorktown ressemble à ce Tomorrowland fantasmé avec des trains qui passent dans tous les sens et tout. Il y a une espèce de filiation visuelle.
Hein, quelque part, oui. Et puis moi, je trouve globalement que Giacchino, il a fait le boulot parce que le film est pas moche à regarder.
Non, c'est pas moche.
Il a fait ce qu'il avait à faire avec un scénario un peu plan-plan. Et franchement, ça démérite pas par rapport à Gigi qui, entre-temps, était parti préparer son Star Wars 7 de sinistre mémoire.
Il y a l'actrice Sofia Boutella, franco-algérienne, qui est excellente dans...
Ouais, elle est bien, elle a un joli maquillage et tout.
Un maquillage incroyable, ouais.
Il y a aussi Idris Elba qui fait le méchant, donc on connaît surtout sa voix parce qu'on le voit pas vraiment. Et c'est aussi, malheureusement, le dernier film de Anton Yelchin qui jouait le rôle de Tchekhov. Il a été écrasé par sa voiture sur laquelle il avait pas mis le frein à main. C'est un truc à la con, quoi. Voilà, donc on écoute ce morceau qui s'appelle Yorktown Theme, et il est chouette ce thème, je m'en lasse pas. On aurait pu vous mettre autre chose, mais c'est celui que j'ai choisi de mettre parce que je l'adore.
Mais tu as bien raison. Thank you. Ah, c'est très, très, très joli. Ça rappelle aussi un peu quelques intonations à la Maurice Jarre, je trouve, dans ce morceau.
Peut-être bien, oui.
Surtout Barry, moi. Et c'est pas la première fois qu'on note du Barry chez Giacchino.
Qui cite du Barry, oui, bien sûr.
Le trio d'influence de Giacchino, c'est clairement Williams, en tête, évidemment, Goldsmith et Barry. C'est pas les pires à citer, hein. Bon, est-ce qu'on se lance dans le bizarre? Est-ce qu'on se lance dans le chelou? Est-ce qu'on se lance dans l'étrange?
Ah, n'ayons pas peur, puisque là, Giacchino va carrément s'attaquer à la licence Marvel.
Voilà, son entrée dans le MCU.
Et ouais, et pas par n'importe quelle porte, parce que finalement, il rentre avec un film qui est peut-être un des moins pires pour nous. Pas forcément très fan du MCU.
J'avoue.
Enfin, surtout vous, Rafik et toi, Olivier.
On a la dent dure.
Vous avez la dent dure. Moi, je suis un peu plus gentil parce que j'ai des enfants.
Moi, j'ai pas la dent dure vis-à-vis du MCU, puisqu'en réalité, je fais le maximum pour ne pas en parler. donc, je ne vais jamais au podcast où il en est question.
Mais qui ne dit rien n'en pense pas moins.
Moi, j'ai vu tous les films. Hein.
Moi aussi.
Donc, je parle en connaissance de cause. On va parler de certains films du MCU dans cet épisode et dans le suivant. Et moi, je vous mets un challenge. C'est qu'à la fin du dernier épisode consacré à Giacchino, vous allez pouvoir nous dire, si vous voulez, qu'un jour, on s'occupe globalement du MCU de manière musicale, ou si vous préférez qu'on s'abstienne. Voilà, vous nous direz ça.
Bon, en tout cas, celui-là, il est en 2016 et il s'appelle Doctor Strange. Et en plus, il y a Benedict Cumberbatch. Ça tombe bien, je l'adore.
Il est très très bien choisi pour le personnage.
Ah,
pour
il
le
est
coup.
Parfait pour jouer Doctor Strange.
C'est un film réalisé par Scott Derrickson, qui est un mec qui avait fait surtout des films d'horreur avant.
Carrément des directs ou vidéo.
Certains, oui.
C'était Hellraiser Inferno.
Ouais, voilà.
L'Exorciste, Sinister.
Après, récemment, il a fait Black Phone, je crois, sur Netflix.
Et son premier gros film, c'était un mec très pénible et assez honteux, même du jour où la Terre s'arrêta.
Oh là là là, oui. Ah oui, ouais. Ça c'était dur.
Ouais. Sur les projets Marvel Disney, la place du réalisateur est totalement facultative. Enfin, vraiment, il y a besoin de quelqu'un à qui les comédiens parlent, en fait. C'est un peu ça, j'ai l'impression.
Oui, encore.
mais voilà, c'est même pas un chef d'équipe, en fait.
C'est pas par lui que Giacchino s'est retrouvé sur le film, d'ailleurs, puisque Giacchino, simplement, il est rentré dans le MCU parce qu'il s'entend bien avec Kevin Feige, qui est
qui à l'époque était effectivement celui qui gérait
de la partie
ça,
Marvel, ouais. Quoi. Ouais. Et c'est pour ça qu'il va faire celui-là, comme il va faire certains des films suivants qu'on va aborder dans cet épisode.
Et puis Kevin Feige, je sais pas si ça a été dit, est un grand fan de Star Trek, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il a pensé à Giacchino, puisque Giacchino s'occupait de la licence à ce moment-là.
Il a un profil suffisamment élevé pour qu'on le mette sur des projets
clairement.
Comme ça.
Bah, il va le prouver parce que Doctor Strange, d'abord, c'est loin d'être ce qu'il y a de pire dans le MCU. C'est même plutôt regardable. En tout cas, la première partie. Est...
La première moitié du film, ça va. La deuxième moitié, ça devient un peu.
D'avance, désolé, mais sur cet fragile. Épisode et le suivant, je vais souvent répéter
passer,
la même phrase.
Qui va passer.
Je ne me souviens pas.
Mais c'est pas grave.
Voilà, ce sont des films qui s'effacent au fur et à mesure que je les vois. Donc, c'est assez compliqué.
Bon, en tout cas, pour ceux qui aiment le MCU, je pense que Doctor Strange fait partie de ceux qui sont vraiment très appréciés dans la liste des 23 films ou 24 films qui ont composé ce premier arc narratif.
Et donc Derrickson lui-même est évidemment content de ce qu'a fait Giacchino, puisqu'il dira qu'il a fait ce que font les bons compositeurs, c'est pas juste créer une musique qui accompagne le film, mais c'est ajouter un niveau de lecture supplémentaire au film, une dimension additionnelle en fait, au scénario, au jeu des acteurs, à la mise en scène, à tout ça.
Je dirais que le supplémentaire est de trop dans la phrase, il ajoute un niveau de lecture, parce qu'on n'avait pas...
Voilà, ça y est, Rafik est parti.
Ça y est, il est en roue libre.
Et donc Giacchino était évidemment content de travailler sur un Marvel, parce que
ça
représente beaucoup d'argent, ça représente beaucoup de notoriété, et puis ça représente aussi des moyens nécessaires pour faire à peu près ce qu'il veut, en fait.
Ouais, enfin, ce qu'il a,
ce qu'il a, on a, ce qu'il, ce qu'il a globalement signé... eu la
voilà,
plupart
on,
du temps.
On avait bien signalé dans les premiers épisodes que quand il demandait un orchestre de 120 personnes, en général, on lui filait, quoi.
Mais si je puis me permettre, je l'ai dit déjà plein de fois, et je le répète, et je n'aurais pas fini de le répéter, Giacchino est un geek, ça veut dire qu'il lisait les aventures de Doctor Strange quand il était gamin, en fait.
Et ma question, elle est là, en fait, c'est qu'effectivement, faisant partie de ceux qui ont une certaine connivence avec le personnage, et notamment ses origines, on ne peut plus psychédélique, parce que, excusez-moi du peu, mais Doctor Strange, c'est quand même toute une époque, quoi. Comment ça se traduit dans sa musique?
Par de la mélancolie.
Ah ouais.
Par la tristesse sous-jacente du personnage qui a perdu ses mains, parce que ça, au départ, c'est un chirurgien, très grand chirurgien.
C'est très bien montré.
Qui, dans un accident, perd l'usage de ses mains, il a besoin d'être reconstruit, il finit par récupérer des mouvements normaux, mais il ne peut plus du tout opérer qui que ce soit. Et du coup, il part au Tibet pour explorer un moyen de retrouver le contrôle de ses mains comme avant. Et c'est là qu'il va commencer à acquérir les pouvoirs qui vont en faire un sorcier.
Il part pas au Tibet au hasard, puisqu'il croise la route d'un gars qui était là-bas, qui a miraculeusement récupéré d'une colonne vertébrale brisée et qui fait du basket. Donc évidemment, ça le tente.
Voilà, il découvrira d'ailleurs que le mec en question, il a fait ça parce que il a contrôle de la magie et que la magie lui permet de contrôler son corps qui est toujours cassé en fait. Donc la partie d'apprentissage est plus sympa que le reste, même si c'est un peu confus et visuellement parfois un petit peu chargé aussi.
Il y a un choix de casting.
J'ai effectivement le souvenir d'une Tilda Swinton qui jouait plus ou moins le rôle d'Alexandra David Neal revisité. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une des premières femmes occidentales à avoir été formée par des prêtres tibétains et on lui attribuait certains pouvoirs.
C'est un grand maître hein, dans le film Tilda Swinton. Et il y a un grand méchant évidemment qui est joué par l'irremplaçable Mads Mikkelsen qui est toujours là pour jouer les méchants.
Mais qui est très bien. Il y a des emprunts à Inception au niveau visuel. Il y a des emprunts graphiques qui sont...
Oui, donc je ne suis pas tellement fan
Inception,
pour le coup.
C'est plutôt encore une fois... On revient sur la question du psychédélisme, mais le personnage de Doctor Strange étant, dès son origine, extrêmement marqué par l'ésotérisme. Doctor Strange, au départ, il vient de Dracula. Hein. La raison pour laquelle il a cette cape et ce look, etc., un peu vampirique, c'est parce qu'en fait, il y a tout un soubassement ésotérique. La question du Tibet, c'est tout ce qui a trait à la société théosophique de Elena Petrovna Blavatsky. Enfin, tout ça, c'était des lectures qu'avait son créateur et dans lesquelles il était plongé. Et puis, de toute façon, la fin des 60s était à fond dans l'ésotérisme. Et c'est aussi ce qui en fait pour le coup un film extrêmement sage.
Et je sais qu'on en a parlé dans l'épisode qu'on a fait sur Richard Band, où il y a un film qui était une adaptation de Doctor Strange où finalement Charles Band a perdu des droits et qu'il a réutilisé quand même tout ce qu'ils avaient tourné et que ça ne s'appelle plus Doctor Strange mais que c'est globalement une aventure de Doctor Strange avec un autre nom.
Alors celui auquel je pense, c'est un film réalisé par Philippe Deguerre pour la télévision, pour Universal Télévision qui est passé sur CBS. Et déjà à l'époque, moi je l'ai vu celui-là, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça et c'était déjà assez sage. En fait, pourtant, on était en 78, tu vois, ouais, on était dans les 70, mais le côté champignon hallucinogène avait été grandement gommé.
Mais le film est sage globalement, et d'ailleurs, Giacchino va avoir une approche finalement assez sage aussi musicalement, puisqu'il va faire quelque part des clins d'œil à rien de moins que Jean-Sébastien Bach. Il y a un côté très Bach dans sa composition du thème pour Doctor Strange.
C'est intéressant.
Ah, n'est-ce pas ?
C'est même, je trouve, plutôt bien vu, puisque... Enfin, moi, ce que j'en comprends, c'est que Bach est un peu celui qui a posé toutes les règles et les bases quasi mathématiques, on va dire, de la musique occidentale, quoi. Il y a dans l'univers de Doctor Strange tout un aspect, justement, supralogique, en fait. Il y a dans le film toute une utilisation des fractales, par exemple, hein, qui sont en fait des visions supranaturelles très liées à des principes mathématiques. Et en fait, la musique de Bach, elle est un peu comme ça. C'est une série d'embranchements qui t'emmènent.
C'est très intéressant comme réflexion, Rafik. Je te félicite.
Mais je t'en prie. Je suis quelqu'un de sensible et de cultivé.
Moi, j'ai rien compris. Hein, mais bon.
Et donc, Giacchino, dans le film, fait tout à fait le boulot, mais le score, moi, je trouvais mixé un peu trop en retrait. On n'en profite pas tant que ça à l'image. Ouais. Ah, il y a beaucoup d'effets sonores et la musique est vraiment en arrière. Donc,
ça, c'est le problème des mixages chez Disney. Ça, de manière générale, sur tout le MCU et même production.
Voilà, donc on en profite au mieux dans le générique de fin. Et on va écouter une version, c'est un peu une version concert du thème, une version qui englobe vraiment tout ce qu'il a prévu pour ce thème-là, qui n'est pas vraiment utilisé, je crois, tel quel dans le film, mais qui est sur le disque, qui s'appelle Go for Baroque. Ça fait encore un petit clin d'œil à Bach, même si la structure du morceau en soi n'est pas littéralement baroque, mais il y a quand même du clavecin, donc ça fait un peu la blague, et le thème est super bien. Et c'est bien dommage qu'il ne soit pas revenu sur Doctor Strange quand ils ont fait la suite, parce qu'à mon avis, il aurait pu s'amuser. C'est un autre débat. Donc, on va écouter Go for Baroque de Doctor Strange par Michael Giacchino.
C'est parti. Thank you.
Il est beau ce thème.
Ouais, c'est super. Moi, je trouve qu'il a fait un super boulot.
Et pour le coup, là, il personnifie tout ce que Rafik a décrit à propos de Doctor Strange en un morceau. Tout est là.
Bon, on quitte le MCU, on y reviendra peut-être plus tard, mais on va partir dans une galaxie lointaine, très très lointaine.
Mais qui est quand même dans la galaxie Disney.
Et oui, puisque ça a été racheté par Disney, il s'agit de Lucasfilm, il s'agit de Star Wars. Rogue One, Star Wars Story. Voilà, donc une préquelle à épisode 4.
Une préquelle littérale, puisque donc le film se termine littéralement au début du premier Star Wars.
Star Wars, voilà. Un nouvel espoir. Et donc, ça raconte l'histoire des espions rebelles qui vont voler les plans de l'étoile noire afin de sauver justement la rébellion et la galaxie de la menace de cette arme absolue.
On en avait parlé dans notre épisode consacré au Star Wars hors John Williams. C'est dans cet épisode-là où d'ailleurs on faisait un lien très intéressant entre un thème composé par Giacchino pour le film qui en fait s'inspirait d'un motif qui était composé par Williams dans le premier Star Wars, c'est-à-dire qu'il avait réussi à trouver dans la partition de Williams un motif qui n'avait pas été développé, en se disant en fait ce motif il raconte ce truc d'avant et c'était génial, enfin voilà, de voir à quel point il geekait dans son travail de compositeur.
Alors moi j'aimerais bien savoir comment Giacchino fait pour survivre physiquement parlant, parce que en 2016 il enchaîne quand même, alors vous allez me dire Zootopie, ça a dû être préparé à l'avance, c'est de l'animation, mais quand même Star Trek Sans Limite, Doctor Strange, Rogue One, et ça doit faire des bonnes semaines.
Ça a été très particulier, parce qu'au départ, c'était Alexandre Desplat qui était sur le film.
Oui, c'est vrai.
Ce que lui m'a dit, c'était que lui, il avait effectivement commencé à bosser sur le film, mais que le film a pris beaucoup de retard, et comme il était engagé sur Valérian, il a préféré laisser tomber. Et Giacchino donc s'est retrouvé embauché à la dernière minute pour faire le score d'un Star Wars, c'est-à-dire le truc le plus impressionnant quand t'es un fan de Williams comme lui il l'est. Et il a eu 4 semaines en tout.
Voilà, un mois.
Pour tout faire. Il y a des mauvaises langues qui disent qu'il a fait de la merde. Moi, je ne trouve pas du tout.
Je suis pas ultra fan, personnellement.
Je trouve qu'il s'est drôlement bien débrouillé, qu'il a fait justement ce que disait Rafik, c'est-à-dire qu'il a joué parfois sur des bases de motifs de Williams pour arriver à faire autre chose complètement différent au final, en partant d'une structure qui existe déjà. Il fait évidemment appel au thème de Williams, comme dans Jurassic World.
Sachant qu'il doit aussi correspondre au film sur lequel il travaille, quelle que soit sa geekerie et son amour des Star Wars originaux, on est dans un Star Wars un peu particulier en termes de tonalité, de visuel, etc. Puisque le film se voudrait un peu plus les pieds sur terre. C'est moins de l'espèce fantasy. C'est plus un film de guerre spatiale.
Voir un film d'espionnage, d'ailleurs.
Un film d'espionnage. Visuellement, on est dans des tons très durs, très...
Et surtout, très années 70, c'est un film qui est marrant parce qu'il reprend vraiment l'imagerie rétro-futuriste. On peut parler de rétro-futuriste du Star Wars de 77, parce qu'il faut justement coller au film d'époque, puisque c'est, comme tu l'as dit, c'est une préquelle exacte, donc ça va s'enchaîner directement sur le premier Star Wars. Visuellement, c'est assez marrant. Il y a quelques plans qui sont des rushs de l'époque du Star Wars de 77, parce qu'ils n'avaient pas été exploités. C'est des plans justement de cockpit d'X-Wing, je crois bien, qui ont été réintégrés dans Rogue One, donc ça c'est très amusant.
Ouais, ce qui est marrant, c'est qu'il y a plein de fanservice dans le film, mais pour le coup, sa place est presque plus justifié là que dans les films qui vont suivre, simplement parce que ce sont des choses qui mènent à quelque chose qu'on connaît déjà, qui a une certaine cohérence à avoir ça dans le film. Il y a 2-3 trucs qui sont un peu too much, mais globalement ça va, et globalement le film est plutôt regardable. C'est le seul Star Wars, à part ceux de la première trilogie, qui suscite une quelconque émotion chez moi, autre que l'ennui, quoi. Il y a des scènes qui sont vraiment prenantes. Le fait que les personnages soient, entre guillemets, on spoil pas trop, sont tous condamnés, puisqu'ils vont tous mourir à terme pour arriver à fournir les plans à la rébellion, ça marche, en fait. Ça génère une implication émotionnelle qu'on n'a pas habituellement sur les gros gâteaux pleins de fanservice qui vont suivre.
C'est-à-dire qu'il a été produit, effectivement, à part de la franchise, voilà. C'est plus un extra.
Oui, c'est pour ça que ça s'appelle le Star Wars Story. D'ailleurs, ça devait initier une série de spin-off qui va pas être très très longue, malheureusement.
Et c'est la raison pour laquelle ils ont décidé qu'il n'y aurait pas de texte déroulant en début de film. C'était pour bien souligner que c'est pas un Star Wars canonique. Voilà, canonique.
Voilà, et il ne démarre pas avec le thème classique de Star Wars de Williams. Il démarre avec une harmonie qui te donne l'impression qu'il arrive, et en fait, on part sur autre chose. C'est assez malin.
Et du coup, ça autorise la production à laisser un peu, à lâcher la bride, en fait, au réalisateur. La seule qualité pour moi, je suis pas un fan du film, mais c'est que c'est, d'une certaine manière, le film du mec qui l'a fait. Pour un Star Wars récent, c'est du miracle.
Pas uniquement du réalisateur, mais surtout, ils ont vachement lâché la bride à toute l'équipe d'ILM qui était très impliqués dans ce projet. Et je pense à John Knoll et aux autres d'ILM qui se sont beaucoup impliqués dans le scénar, dans la réalité.
De toute façon, l'idée vient de John Knoll, qui l'avait déjà suggéré, je crois que c'était en 2002, un truc comme ça. On rappelle aussi que John Knoll, accessoirement, est un des créateurs de
Photoshop.
De Photoshop.
Avec son frère, oui.
Mais quand je dis qu'ils ont lâché la bride à Gareth Edwards, c'est qu'il y a des visions dans le film qui sont des pures visions de fan art, en fait. Star Wars, ça a été une machine à faire rêver les gens à une époque. Et c'est pour ça que les jouets ont autant cartonné, parce que tous les gamins s'appropriaient cet univers pour faire leur propre truc. Du coup, lui, il fait ça. Donc,
on a l'impression que les créateurs du film ont aussi rêvé avec Star Wars, alors que dans la post-logie, c'est juste les dollars qui font rêver les producteurs.
Si je suis sur une planète en train de voler au-dessus des nuages et que pas loin de cette planète, il y a l'étoile noire, j'aurais quelle vision de l'étoile noire ? Et tu as un plan avec cette étoile noire au-dessus d'une mer de nuages.
Enfin, c'est joli d'ailleurs.
Et donc, tu vois le film et tu fais « Ok, je suis content de découvrir de nouvelles façons de visiter cet univers. »
De même, le choix de ne pas représenter les Jedi, mais de représenter un fan, en gros. Mais il n'y a pas de sabre laser. Enfin, c'est intéressant parce que, en fait, Rogue One contourne tous les canons de Star Wars, on passe à côté sans jamais marcher dedans, mais on est content quand même, et au bout du compte le film est assez satisfaisant à ce niveau là.
Voilà, puis même au niveau du casting ça va, Felicity Jones elle tient la route en aventurière qui résiste un peu à son destin, Diego Luna qui reviendra après dans une série adaptée de son personnage avant Rogue One, il y a encore Mads Mikkelsen qui fait le papa de l'héroïne.
Décidément il est partout hein.
C'est moins satisfaisant au niveau de la recréation digitale de Peter Cushing, même si l'effort est louable, mais la technologie n'était pas encore tout à fait à niveau, elle le serait maintenant. Mais à l'époque, c'était encore un peu Joss, mais c'est quand même assez étrange.
C'était couillu, surtout.
De le voir là. Et puis, il y a aussi une Carrie Fisher recréée.
Que je trouve plus réussie.
L'espace d'une
scène, encore,
mais on la voit moins.
Pour les contributeurs de Total Trax qui ont eu donc la chance d'écouter notre épisode consacré à l'Empire contre-attaque, je vous rappelle qu'on y parlait d'un concept qui n'a pas été gardé dans le film, qui était celui de la forteresse de Vador. Dans Rogue One, ils ont décidé d'utiliser le travail qui avait été fait, parce qu'en fait, les designs qu'on a dans la scène de la forteresse sont les designs
de
l'Empire contre-attaque. D'accord. En fait, voilà. Et c'était drôle parce qu'à l'époque de la sortie de Rogue One, le truc avec Star Wars, c'est que tout le monde se considère comme fan, et donc il y a beaucoup de fans de Star Wars qui se sont acharnés sur cette séquence en se demandant mais qu'est-ce que ça fout là, ça n'a rien à foutre dans l'univers Star Wars, etc. C'était assez drôle de les voir s'exciter sur un truc qui a été littéralement créé pour l'Empire Contre-Attaque. Une des vraies forces de Gareth Edwards, il l'a éprouvé d'ailleurs avec son Godzilla, c'est qu'il sait très bien gérer les différences d'échelle. Et ça, ça fait des miracles dans Rogue One, parce que t'as vraiment la sensation que les vaisseaux sont lourds, sont grands, sont éloignés ou très proches les uns des autres, et donc tout ce rapport à l'espace est...
Et il y avait la découverte d'un nouvel environnement dans lequel se battent les rebelles contre l'Empire, qui est une espèce d'île tropicale.
Tropicale, oui.
Et c'était un lieu...
Enfin, un lieu nouveau pour Star Wars.
Oui. C'est ça, exactement. C'est un truc qu'on n'a jamais vu.
Pas le désert, c'était pas les glaces, c'était encore autre chose.
On va arrêter de dire du bien.
Non, c'est littéralement les impériaux au Club Med, en fait.
Oui, mais c'est cool.
On ne sera pas fidèle à notre réputation si on dit du bien du film.
Mais c'est le seul qui a ma faveur. Hein, donc. Non, mais je voulais juste dire pour Giacchino que donc après ces 4 semaines d'écriture, où il a essentiellement fonctionné sur l'adrénaline, il n'a pas du tout pris le temps de se poser et de se dire je suis en train de prendre la suite de John Williams. Du tout, à aucun moment il n'a pas eu le temps. Donc il a fait le job, il a incorporé certains thèmes de Williams. Il y a Vador, d'ailleurs il est aussi mis en voix par James Earl Jones encore une fois. Et il y a le thème de l'Empire, il y a le thème de Star Wars, il y a des choses comme ça qui sont citées très très peu à des moments clés. Le reste du temps c'est la thématique de Giacchino, il y a beaucoup de thèmes, il a vraiment vraiment fait le boulot. Et à un moment donné il s'est retrouvé face à l'orchestre, et là il s'est pris en pleine tronche le fait qu'il était en train de marcher dans les pas de Williams une nouvelle fois, mais sur le plus gros truc de Williams qui était Star Wars. Il était bien content que ça soit pas arrivé avant, parce qu'il pense qu'il n'aurait jamais réussi à écrire ce qu'il a écrit s'il avait eu ça en tête, en fait. Et d'ailleurs, ils ont commencé les sessions d'enregistrement par le thème classique de Star Wars de Williams pour échauffer l'orchestre avant de lancer du Giacchino. Voilà, et donc là, on va écouter un morceau qui s'appelle Dinner So on Hope Suite, qui est littéralement une combinaison des deux thèmes centraux du film, le thème de Jean, qui est donc l'héroïne jouée par Felicity Jones, et le thème de l'espoir, qui est ce qui porte en fait la rébellion à ce moment-là de l'histoire, le thème de tous les sacrifices qu'ils sont prêts à faire pour arriver à faire la nique à l'Empire, en fait. Voilà, et donc c'est un très beau thème avec des jolis solos de violon et de violoncelle. Franchement, moi je dis, c'est encore une fois du boulot bien fait.
Eh ben c'est parti.
Et donc Giacchino aurait possiblement pu faire les Star Wars qui étaient à venir, la postlogie, puisque le premier film déjà a été mis en œuvre par J.J. Abrams. Ça ne s'est pas fait, tout simplement parce que Williams était partant pour le faire, et qu'on ne peut pas dire non au patron. Mais sinon, ça aurait probablement été Giacchino. Voilà, peut-être plus tard, dans un film à venir. Et donc Giacchino, comme il est arrivé sur la fin du film, il n'a pas eu le temps de faire un caméo dans le film, alors que Star Wars, c'était quand même important pour lui. Hein. Il raconte à qui veut bien l'entendre qu'il a vu le film quand il avait 9 ans et que ça l'a marqué à vie. J.J. Abrams se donnera l'occasion de faire un caméo dans Star Wars 7. Ne revoyez pas le film pour le trouver, vous ne le reconnaîtrez pas, puisqu'il joue le Stormtrooper FN-3181 et qu'on ne voit pas sa tête.
Tout ça pour dire que Michael Giacchino va lâcher le temps d'un film les grosses licences. Il va revenir travailler avec Colin Trevorrow, c'est pour ça que je dis que ça devait s'être bien passé.
Mais vraiment, quand on les entend parler de Giacchino, j'ai l'impression que c'est le meilleur compositeur du monde avec qui travailler. Tous ceux qui bossent avec lui veulent revenir avec lui, quoi.
Donc là, Colin Trevorrow va l'embaucher pour un tout petit budget, là, c'est tout petit film de 10 millions de dollars.
Oui, oui, ça fait partie de ces films qui faisaient le quotidien du cinéma hollywoodien c'est dans ça. Les années 90,
oui.
Mais qui ont disparu au fil des ans. Mais on l'a dit, Colin Trevorrow, il a démarré sur ce genre de film-là, en fait, puisque c'est une comédie primée à Sundance, je crois, donc qu'il avait fait découvrir et qu'il s'est retrouvé propulsé sur Jurassic World. Mais évidemment que ces réalisateurs, ils acceptent de faire ces contrats et ces énormes franchises avec l'espoir de pouvoir développer leur carrière ensuite. Donc on peut imaginer que The Book of Henry, c'est un film un peu plus proche de ce qu'est le vrai Colin Trevorrow.
Probablement, oui.
Donc avec Naomi Watts, ça raconte quoi The Book of Henry ?
Alors, c'est l'histoire d'une mère qui vit avec ses deux enfants, et l'un des deux garçons, le plus grand, est malade, il a un cancer, et il n'est pas prévu qu'il y survive. Et lui, il s'attache beaucoup en restant dans sa chambre à ce qui se passe dans la maison d'à côté. La maison d'à côté, c'est une gamine qui est battue, martyrisée par son beau-père, et le gamin met en place un plan pour la sauver.
C'est un surdoué.
Oui, c'est un surdoué.
C'est littéralement lui qui fait tourner la famille, qui s'occupe des comptes financiers de sa mère, etc.
Et en même temps, il n'est pas là longtemps parce qu'il meurt pendant le film de son cancer. Sa mère, après avoir été évidemment dévastée, récupère un carnet où il avait fait son plan pour sauver la gamine.
C'est ça.
Et elle va décider de mettre le plan en action. Le film s'est fait défoncer par la critique. Moi, je me souviens de l'avoir vu, je me souviens pas d'avoir trouvé ça détestable.
Même s'il y a des thèmes graves dans le film, ça se voudrait un feel-good movie, quoi. C'est quand même assez mélodramatique.
Oui, mais je pense que le problème, c'est qu'il y avait des changements de ton réguliers entre la comédie, la tragédie, le drame, le film social, etc. Et que le public a pas suivi, et la critique non plus.
Et dans tout ça, Michael Giacchino ?
Il a essayé de le prendre pas personnellement, parce que le film s'est vraiment fait pourrir. Il sait que c'est pas parce qu'un film se fait défoncer que c'est un mauvais film. Et là, il cite Speed Racer, il cite John Carter, etc. Et il espère peut-être que, avec le recul, le film trouvera un public plus tard, quoi.
Mais je veux dire, en termes musical, il s'est lâché encore ?
Il s'est pas lâché parce que le film est quand même un petit film où il n'y a pas la place pour faire un truc énorme. Donc c'est surtout le premier et dernier morceau qui sont remarquables. Le reste, il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu diffuses, un peu en retrait dans le film. Et c'est pas la musique la plus intéressante que Giacchino a faite. Par contre, son thème principal, c'est une sorte de dérivé, quelque part du thème de Joy dans Inside Out. Il y a une petite mélodie au piano comme ça, pleine de joie et d'entrain. Et on va l'écouter.
Il faudra écouter ça, ouais.
Donc ça s'appelle The Book of Henry et le morceau s'appelle Ouverture.
C'est parti. Thank you.
Et donc c'est marrant parce que le morceau me rappelle aussi un morceau qui a été fait par Giacchino pour Lost, parce que dans Lost, il y a un personnage joué par Dominic Monaghan qui fait partie d'un groupe de rock qui s'appelle Driveshaft, et Giacchino a fait un morceau qui est censé être un des morceaux du groupe, qui est en bonus sur le disque de la dernière saison, je crois. Je trouve que ça ressemble pas mal, en moins rock, à ce qu'il a fait pour The Book of Henry. Je sais pas s'il faut le recommander, je me souviens pas suffisamment bien, mais en tout cas, le score est joli, il était sorti à l'époque en digital, il est sorti en CD depuis chez Quartet Records, c'est pas exclu qu'il leur reste encore des exemplaires. Donc allez-y, ça vaut quand même le coup d'oreille.
Très bien. Retournons dans le MCU tout de suite en 2017 avec un chef-d'œuvre. Là, je dois dire, réalisé par John Watts, le retour du personnage emblématique, celui qui tisse sa toile dans le MCU de Disney, mais de Sony aussi, puisque Sony a des billes sur Spider-Man.
En fait, Sony et Disney ont trouvé un accord qui leur permet d'exploiter chacun de leur côté le personnage de Spider-Man, sachant que Sony est obligé de faire un film tous les, je sais pas combien régulièrement, pour garder les droits.
Raison pour laquelle on a une origin story tous les trois.
Oui, comment ça se fait que John Watts il a fait appel à Giacchino?
Parce que c'est Kevin Feige qui fait appel à Giacchino. C'est pas les réalisateurs. Les réalisateurs ils n'ont rien à dire sur rien quand ils bossent pour Disney. C'est pour ça que certains refusent d'ailleurs. Hein.
C'est la troisième mouture depuis le début des années
2000.
On a eu
3 films avec Tobey Maguire, on a eu 2 films avec Andrew Garfield et maintenant on va avoir 3 films mis en musique tous les 3 par Giacchino avec Tom Holland. Et moi c'est le truc qui déjà ça me flingue le film, c'est que Tante May c'est Marisa Tomei qui est toujours aussi charmante, aussi relativement jeune et en tout cas pas une grand-mère, quoi. Et là, on se dit qu'ils ont vraiment régressé au niveau enfantin de Spider-Man. C'est pas le Spider-Man de Strange, c'est le Spider-Man de Spidey, la version enfant de la BD Marvel.
C'est une Tante May qui a vu les Sex Pistols en concert.
C'est ça.
Oui, mais j'ai du mal à pas y voir quelque chose de très cynique, en fait. Mais bon, je vais pas m'attarder.
Non, ne t'attarde
sur
pas.
Sur ce film que j'ai vu, je crois. J'en ai vu plusieurs des Spider-Man. J'ai vu les Amazing, j'ai vu Far From Home, j'ai vu Homecoming.
Putain, t'es courageux.
Non, c'est pas que je suis courageux, c'est que il m'arrive assez régulièrement de manger des pâtes. Quand je mange des pâtes, je me dis qu'est-ce que je vais bien pouvoir regarder. Bon, bah peut-être un Marvel.
Non, bah dis donc, mange pas des pâtes trop souvent parce que sinon tu vas tous les voir. Hein.
cela dit, Kevin Feige et Marvel misaient beaucoup sur ce retour de Spider-Man dans le giron officiel de Marvel, puisque jusqu'alors c'était géré totalement par Sony. Et ils ont mis les moyens sur ce Spider-Man qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Hein, c'est un autre problème.
Oui, qui était déjà apparu chez Marvel dans Captain America Civil War.
Exactement, petite apparition, mais en effet, il l'avait introduit dans ce film-là, et là, il a son propre film, et donc, dedans, ils y mettent du Robert Downey Jr. en Iron Man qui vient chapeauter le petit jeune du coin,
c'est ça.
Du John Favreau, enfin...
Clairement, il y a du pognon, mais par contre, il n'y a plus aucun respect vis-à-vis du personnage tel qu'il a été défini dans les films précédents.
C'est un autre problème.
Voire dans la BD, le costume de Spider-Man, ça n'est plus un costume qu'il taille lui-même dans de l'Icra, c'est un costume high-tech qui lui est fourni par Tony Stark, et un costume à qui il parle, qui a un ordinateur de bord et qui fait des tas de trucs hallucinants. Hein. C'est un couteau suisse, hein, le costume.
Il est
capable d'envoyer des missiles, tout ça. Pour moi, c'est pas Spider-Man du tout, en fait. Alors, pourquoi Giacchino a voulu faire ça? Bah, parce qu'il était déjà fan de la BD. Ça, on peut pas lui en vouloir. Et parce qu'il était... assez enthousiaste à l'idée de faire la musique pour un personnage comme ça, qui est encore un ado, qui est très un ado dans cette version-là de Spider-Man. Ce côté adolescent du personnage se ressent aussi dans l'écriture de Giacchino et dans la musique qu'il a composée. Il y a un côté comme ça un peu maladroit, un peu encore adolescent dans la musique, qui rend plutôt bien l'effet. Après, j'ai toujours dit que Giacchino écrivait une musique qui était une réaction émotionnelle à ce qu'il voyait à l'écran. Et je pense que sur les films qu'on aborde dans cet épisode, il commence à y avoir une réaction émotionnelle plus tiède.
Le fait qu'il produise énormément de musique, est-ce qu'il est à fond sur tous les morceaux? Est-ce qu'il a des copains qui lui filent un coup de main dans son studio? Enfin voilà, on commence à se poser des questions. Quoi.
On ne sait pas, et en plus de ça, effectivement, il a une productivité qui est quand même hallucinante, qui doit être épuisante à terme. Et puis même, il y a un travail bien fait, c'est ce qu'on aura toujours à minima avec Giacchino, pas de doute là-dessus, mais on n'a plus l'engagement qu'on trouvait dans un truc comme Jupiter Ascending, par exemple. Après, ça s'écoute, sans aucun doute, il n'y a aucun problème, mais je trouve qu'il y a un peu moins de profondeur dans ce qu'il écrit pour les Spider-Man que dans d'autres projets qu'il a fait avant. On va contrer ce que je viens de dire en écoutant un morceau qui est une scène d'action.
Oui.
Et donc l'ennemi de Spider-Man dans ce film-là, c'est le Vautour, qui est d'ailleurs un personnage qui m'a jamais semblé passionnant, même dans les comics, qui est joué par Michael Keaton. Et,
À la rigueur, ils ont fait à peu près quelque chose de ce bad guy, puisque c'est un blue collar, hein, un ouvrier, en gros, un chef ouvrier qui refuse d'être mis de côté.
C'est ça, il s'est fait piquer son boulot de de ramassage des débris après la grosse baston à la fin d'Avengers.
Et ces personnages d'ouvriers ayant disparu du cinéma occidental, pas seulement américain, mais carrément occidental depuis au moins 25 ans, ça faisait un peu tout bizarre d'en voir à l'image.
Ouais, même si c'est dans le rôle d'un méchant. Donc on écoute une petite séquence d'action où y a une poursuite, c'est là où il découvre les pouvoirs de son costume, des choses comme ça. Ça s'appelle Fly by Night Operation.
Bah c'est parti.
Et donc pour ceux qui connaissent pas le film ou qui n'ont pas écouté la musique avant, on a dans ce morceau le thème du vautour qui est menaçant comme il faut. Voilà, globalement ça va, hein, c'est pas mal fait, c'est juste que en tout cas chez moi ça soulève moins d'enthousiasme que les scores qu'on a évoqués dans les épisodes précédents.
C'est peut-être la thématique aussi qui t'excite moins, mais bon, bah, le fait que ce soit ce Spider-Man là...
Ça peut jouer, j'avoue que j'ai pas vraiment adoré le film et ça va pas changer de cap dans les...
ça va pas s'améliorer.
Avec les films suivants, donc on est toujours en 2017.
On est toujours en 2017, mais alors cette fois-là, on va revenir à une licence qui nous plaît un peu plus, avec des poils. C'est La Planète des Singes. Donc c'est War for the Planet of the Apes. C'est donc le troisième reboot de La Planète des Singes. Et moi, je l'aime bien. Moi,
c'est la conclusion de la trilogie. C'est encore une fois mis en scène par Matt Reeves. Et le film a, on va dire, quelques points communs avec le dernier film de la première série Planète des Singes, qui était La Bataille de la Planète des Singes.
Oui, alors quelques points communs, oui, au niveau de l'histoire peut-être. Pas tellement au niveau de,
du reste.
Look, voilà, parce que le film original était quand même bien cheapos.
Oui, en même temps, je pense qu'avec le budget de ce Planète voilà. des Singes de 2017, tu peux en faire 40. Hein,
et là, on a quand même un film à gros budget. Donc, c'est quand même une franchise qui s'est bien installée.
Je trouve.
Assez discrètement, en fait, au niveau médiatique. Mais...
discrètement, mais solidement.
Mais solidement.
Oui, et puis avec une vraie brillance dans l'usage des effets spéciaux qui n'a pas été soulignée suffisamment, en fait, à l'époque du film, je trouve.
Non, mais c'est pas du show-off. Alors, c'est un peu le problème de cette licence, c'est que ça ne veut pas forcément en mettre plein les yeux de son spectateur, mais juste raconter une histoire.
Et de l'effet spécial, mais aussi de l'interprétation.
Et oui.
Parce qu'Andy Serkis, dans le rôle de César, il est incroyable. Il était incroyable en Gollum, il était incroyable en Kong, dans le King Kong de Jackson. Il est encore une fois incroyable. C'est un mec qui est meilleur quand il est pas à l'écran que quand il est à l'image.
Et les gens qui apprécient cette nouvelle franchise n'ont peut-être pas forcément conscience de ses rapports esthétiques et thématiques avec un des films les plus haïs de la fin des années 90, qui était le Postman de Kevin Costner, mais en fait, pour moi, c'est du Postman, en fait. Surtout ce troisième volet. Ce côté post-apo westernien, en fait, il était dans Postman, on le retrouve dans ce Planet of the Apes, et c'est l'aspect qui fonctionne le mieux, selon moi. Et donc, Giacchino, il est...
Qu'est-ce qu'il fait ? Il a été rappelé, on lui a dit
il est... Bah, c'est Matt Reeves, donc Matt Reeves, il est là, hein, toujours. C'est son quatrième film avec lui.
Parce que c'est pas lui qui avait créé les premiers thèmes, puisqu'il était pas sur le premier film.
Ils ont pas été réutilisés. Ils ont pas du tout. Les thèmes de Patrick Doyle, ils ont disparu avec le réalisateur du premier film.
Il y a une construction narrative du personnage de César qui aurait pu être intéressante s'il avait musicalement suivi le truc, quoi.
C'est vrai, mais il a fait les deux tiers, disons. Puis tu sais, la construction narrative cohérente, quand tu regardes Thor, qui a eu quatre compositeurs en quatre films et il a quatre thèmes différents, quoi.
Oui.
Voilà, donc un plein de dessins sur lesquels on va pas s'étendre encore une fois, parce qu'on va vous faire un épisode dédié, je pense même deux épisodes dédiés prochainement pour la sortie du film début mai. Donc on va se contenter d'écouter un morceau qui est quelque part le morceau final de ce troisième et dernier film de la trilogie, où les singes se mettent au vert, décident de quitter là où ils ont jusqu'à présent élu résidence pour aller trouver un paradis terrestre où ils vont pouvoir être à l'abri, en sécurité et en paix. Et c'est la musique qui illustre la vision qu'on a de ce paradis.
On écoute ce morceau qui s'appelle Paradise Found.
Voilà.
Mais c'était bien joli tout ça quand même. Hein. Ce qui fait que pour ceux qui n'ont pas eu le courage de se relancer dans cette franchise de la planète des singes, on vous le conseille. Hein. On l'avait déjà conseillé la dernière fois.
Ouais, franchement, la trilogie est bien. Même le premier est plutôt regardable, je trouve.
Ouais, c'est pas honteux du tout. Et c'est plutôt très respectueux de ce qui avait été créé à l'époque pour essayer de reprendre les origines, de tout remettre à plat. Et moi, j'aime bien.
Et d'ailleurs, pour moi, le score de Giacchino pour ce dernier planète des singes est peut-être le dernier d'une phase. C'est-à-dire qu'après ça, il va passer dans une autre phase qui sera peut-être moins sincère. C'est dur comme terme, hein. Mais ouais, moins sincère dans son approche des films. Là, quand il est sur ce planète des singes-là, il y croit. Et d'ailleurs, alors encore une fois, c'est des morceaux qu'on écoutera un peu plus tard dans notre épisode dédié, mais il y a des choses assez magnifiques dans ce qu'il a écrit pour les deux films qu'il a fait avec Matt Reeves autour des singes. Et franchement, on sent qu'il est très très inspiré par l'histoire et par les personnages, qui sont des personnages, pour le coup, qui sont très bien définis dans le film. Ça, c'est important, c'est vraiment important, et c'est un des problèmes qu'il va avoir sur les films qui suivent, c'est que les personnages commencent à être un peu plus flous, disons.
Quand il est à mesure de connecter émotionnellement avec, ouais, avec les films.
Bon, bah alors, on change de registre encore une fois pour le film suivant, qui est un film de 2018, qui est un film de Drew Goddard, et qui est un film... Alors là, c'est pas une licence, hein, c'est vraiment un truc à part. Ça s'appelle « Saltan à l'hôtel El Royal ».
Voilà, « Bad Times at El Royal » en anglais.
Je l'ai vu et j'ai quasiment tout oublié de ce film. C'est vraiment dommage, parce que j'aurais aimé vous en parler.
Tu l'as vu, Rafik ?
Non, je ne l'ai pas vu.
C'est un drôle de film, pas vraiment réussi, mais en même temps, pour le coup, c'est un film très cérébral. C'est une expérience de déconstruction... des genres qui sont abordés dans le film, du thriller, du film de meurtre,
même
etc.
Un peu de fantastique.
Un peu de fantastique, avec un casting quand même solide, avec Jeff Bridges, avec Dakota Johnson, John Hamm, Chris Hemsworth. Mais je sais pas, je pense que le réel s'est un peu laissé emporter dans le côté méta de son écriture, et que du coup, bah, y a plus de narration au premier degré. Et une fois que tu t'écartes un peu du moment où t'as vu le film, il te reste plus rien de cette narration, et du coup, il te reste plus rien du film, en fait.
C'est un jeune réal. Il a été co-scénariste sur des films de JJ.
Il a bossé sur Alias, sur Lost, etc.
C'est là où il a connu Giacchino, d'ailleurs.
Et il a été réalisateur d'un film, par contre, que j'aime beaucoup, 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 qui s'appelle La cabane dans les bois, qui est son premier film.
Ouais, franchement, ouais.
Alors, oui, moi, ça m'a beaucoup plu. Je me suis bien amusé. Alors, excuse-moi, Rafik.
Non, je dis rien, mais c'est bon.
Mais c'était plein de bonnes petites idées de SF, et surtout avec une fin assez surprenante.
Parce qu'effectivement, il fait aussi partie de la sphère de Joss Whedon. Il était déjà sur Buffy.
Oui.
En fait, c'est le chaînon manquant entre Joss Whedon et J.J. Abrams.
C'est ça, oui, en gros. Oui.
Oh, ben on a trouvé de l'or, là. Sauf que ça lui a pas réussi plus
non,
que ça, parce que le film n'a pas été un carton.
Et depuis, il a plus rien fait en tant que réal.
Il a beaucoup bossé en tant que script doctor, en fait, sur des productions à problème, dont la plus fameuse sur la décennie était le World War Z, qui a été réécrit 50 fois et retourné 18 fois au moins.
Ça ne se voit pas du tout quand on voit le film.
Exactement.
Donc, mais en tout cas, depuis Saltan à l'hôtel El Royal, il n'y a plus de nouvelles. C'est dommage, parce que même si le film n'est pas marquant, plus que ça, c'était pas non plus un film tout à fait déshonorant.
Non, c'était plutôt pas mal réalisé, d'ailleurs, dans mon souvenir. Mais ça suffisait pas, malheureusement. S'il n'y a pas une histoire pour lier tout ça, comme je disais, au bout d'un moment, ça part dans les limbes, en fait. Mais alors, qu'est-ce qu'il a fait, Giacchino, là-dessus ?
Ben, j'en sais rien, mais tu vas nous le dire.
Eh ben, il a fait de la musique.
Ah, bah, ça, c'est étonnant.
Le film, d'abord, c'est un film choral, donc avec un groupe de personnages. Il y a beaucoup d'échanges dialogués où il n'y a pas trop de place pour la musique. Ensuite, Drew Goddard, il avait écrit son scénario avec des chansons à des moments clés du film, des chansons spécifiques prévues. Et donc, quand il a vendu son scénario, il avait carrément prévenu les gens qui étaient intéressés. Il y a eu plusieurs studios qui ont d'ailleurs laissé passer le truc en leur disant, si vous achetez le scénario, il faut aussi que vous assuriez que vous pouvez avoir le droit de toutes les chansons qui sont listées dedans parce que je vais les utiliser dans le film. Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs au final. Donc, il y a un peu moins de place pour le score du coup. Et comme en plus, le truc est assez sombre, assez organique, il y a une grande partie de la musique qui est vraiment très, très en retrait, qui marche très bien à l'image, hein, mais qui est pas vraiment remarquable, qui est plus de l'atmosphère. C'est beaucoup moins thématique et beaucoup moins remarquable que sur des gros blockbusters comme il a fait précédemment. Mais il a quand même fait un morceau qui contient quasiment toutes les bonnes idées du score au début, et dans lequel d'ailleurs les idées sont mieux exploitées dans ce morceau-là que dans le film lui-même. Et il reprend un peu tout ça dans le générique de fin, et c'est ce morceau-là qu'on va écouter, et qui en plus a un titre super cool, puisque c'est The Suite at El Royal Hotel.
Ah, avec un jeu de mots en suite et suite d'hôtel, c'est super. Bon bah écoutons ça alors. Thank you.
Voilà, un changement d'atmosphère bienvenu finalement.
Oui, 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 c'est un long morceau.
C'est un long morceau, comme souvent chez Giacchino. Ça représente bien le score. Après, il est sorti en CD aussi chez Milan, je crois. Ça s'écoute, mais c'est pas non plus le score le plus remarquable.
Bon, on va se taper un dernier film quand même pour le plaisir.
Voilà, un film avec des
dinosaures, encore des dinosaures. C'est la suite de Jurassic World Fallen Kingdom de Juan Antonio Bayona. Et là, c'est compliqué.
Bah là, c'est l'accident de parcours de Bayona, en fait.
C'est pas un accident de parcours. Il n'a pas le choix.
Voilà, c'est ça. Ouais. En fait, ils lui ont mis entre les mains cette espèce d'énorme licence absolument incontrôlable.
Spielberg est allé le chercher quand même.
Mais ce qui devait arriver arriva. Tout talentueux qui peut être Bayona, quand on est face aux équipes de réécriture, aux exécutifs de la major qui veulent tout et n'importe quoi, bah ça donne tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi.
En même temps, il était sur un projet vachement plus porteur juste avant, puisqu'il était sur World War Z. Et il a d'ailleurs initialement refusé Jurassic World 2 à cause de ça. Puis finalement, il a aussi lâché World War Z et il a finalement accepté Jurassic.
Il fut une époque où effectivement, les réalisateurs qui se faisaient remarquer par leur caractère brillant, surprenant, etc., effectivement se retrouvaient sur des super productions hollywoodiennes, mais où il y avait beaucoup moins d'interférences. Le fait est que c'était quand même des films où la major ne s'occupait de rien ou presque. C'est-à-dire les films étaient faits par des producteurs, donc en l'occurrence, voilà, les Joel Silver et compagnie, qui livraient ensuite leur projet à la main. Donc le réalisateur n'avait qu'un seul interlocuteur et qu'un seul adversaire, on va dire, à convaincre ou à combattre. Là, aujourd'hui, c'est des commissions entières quoi, qui ont prédécidé de ce que devait être le film. Donc finalement, quand tu vas voir un film comme Jurassic World, moi je suis allé le voir en salle, dès sa sortie, parce que, évidemment, Bayona, c'est pour moi une des plus grandes découvertes du 21e siècle, en termes de metteur en scène, mais c'est un pur exercice d'humiliation. Enfin, j'ai vraiment l'impression de voir mon chouchou se faire battre, fouetter les fesses avec un balai à plumes ou je sais pas quoi. Enfin, il y a un truc, il y a quelque chose de sale en fait.
Mais le pire, c'est qu'on est sûr qu'il est là.
Oui, bien
parce
sûr.
Parce que de temps en temps, il y a un plan, c'est du pur Bayona.
Évidemment.
Et le plan est absolument magnifique dans une mise en image qui est globalement professionnelle, mais sur un scénario tout pourri, qui fonctionne pas du tout. Ils ont voulu faire autre chose que rester dans le parc pour faire une deuxième partie qui est presque une partie de maison hantée dans un manoir, ouais, avec des dinosaures et une vente aux enchères de dinosaures récupérés en loose day par des mercenaires, etc. Et ça marche pas du tout, du tout, du tout. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est peut-être pas un hasard par rapport au premier film qui est, sans être génial, tout à fait regardable, c'est que là, Spielberg n'est pas du tout intervenu sur l'écriture. Il a laissé Trevorrow et son scénariste Derek Connolly faire le boulot dans leur coin et il s'en est pas mêlé. Bah, ça se ressent du coup. C'est pas du tout structuré, il n'y a aucune logique en fait à ce film.
Mais ça sera pas mieux pour le suivant, donc...
Ça sera pas mieux pour le suivant pour des raisons différentes. Finalement, on en vient à regretter le film qu'on avait que moyennement aimé, qui était le premier.
De la trilogie, c'est celui qui s'en sort à peu près, quoi. Mais le reste, c'est même pas regardable.
D'une certaine façon, je préfère les films malades, comme celui-ci, précisément parce que y a des forces contraires dedans, on va dire. On est tiré vers l'extrêmement mauvais avec quelqu'un qui, de temps en temps, essaie d'aller dans la direction inverse. Et...
Oui, puis il a vraiment essayé. C'est le premier film de la franchise Jurassic Park à être tourné en scope, par exemple, parce que pour Bayona, ça avait du sens.
C'est le premier à tenter de nous raccorder aussi au caractère mélancolique de ces animaux du passé. Enfin, il y a une scène de mort de dinosaure.
Oui, qui est très belle pour le coup.
Qui est très jolie, voilà.
Voilà. Tu parlais du Sense of Wonder qui n'est pas du tout dans le premier film. Là, il y a une scène, c'est que la scène de découverte du Diplodocus qui marche dans les ruines du Jurassic Park, bah, c'est assez dans le ton de ce que Spielberg avait fait pour le premier, en fait. Donc, il y a des petits moments comme ça. Mais dès qu'on quitte l'île, c'est fini. Alors qu'en termes de mise en scène, il y a vraiment des trucs bien faits, des images bien pensées. Une gamine qui est derrière une vitre et il y a un raptor qui s'imprime en superposition, c'est super bien pensé, mais ça suffit pas.
Mais tu transformes pas un projet de merde, il faut le dire, simplement par de quelques belles idées poétiques de mise en scène, on est bien d'accord. En tout cas, on est tous d'accord pour dire qu'on peut passer notre chemin, pour ceux qui n'ont pas vu.
Par contre, Giacchino, encore une fois, fait le boulot. Il reprend là où il s'est arrêté sur le premier film. On va retrouver quasiment tous les thèmes qu'il a fait, qu'on n'a pas écouté, qui sont assez nombreux pour le premier métrage, et des nouveaux thèmes qu'il a fait aussi pour le second. Et on va les écouter un peu tous en fin de cette émission, dans le très long générique de fin qu'il a fait, qui s'appelle At Jurassic World's End Credits. Ce sera notre dernier morceau de l'émission, et il y a des trucs intéressants musicalement dans le film, parce que, par exemple, Giacchino réutilise son thème, qui était assez optimiste et assez emphatique dans le premier film, et il enlève la mélodie et il garde le reste de la structure, et il fait autre chose plusieurs fois dans le film à partir de ça, sans la mélodie, qui ne revient qu'à des moments précis. Et il cite également beaucoup plus que d'habitude dans ses propos un certain Bernard Herrmann, peut-être parce que le film a un côté maison hantée, mais en tout cas il a l'air très très influencé par Herrmann, et il le dit, il parle des Herrmann pour les films de Harryhausen entre autres. Tout ça est rentré dans son chaudron de composition en fait.
C'est vrai que dans la deuxième partie, il y a un peu un côté hitchcockien dans cette maison.
Gothique, oui.
Oui, gothique.
Et vous avez dit, quand on parlait de Jupiter Ascending, que Giacchino avait débauché un chef suisse qui s'appelle Ludwig Wicki, qui n'avait jamais travaillé vraiment sur la musique de film et qui faisait des concerts, par contre, de musique de film. C'est devenu un collaborateur régulier de Giacchino et assez fréquemment, c'est lui qui dirige l'orchestre des partitions écrites par Giacchino pour des films.
Bon, bah, avant d'écouter ce dernier morceau qui va nous ramener dans le monde impitoyable des dinosaures et des parcs d'attractions et des supermarchés comme les aime Rafik Djoumi, on pourrait aller faire un tour du côté de lagrandeévasion.fr qui est quand même la meilleure radio de musique de film au monde.
Oui, on parlait de Sense of Wonder. Voilà, si vous voulez vraiment du Sense of Wonder, vous allez sur lagrandeévasion.fr, la meilleure radio de musique de film au monde, littéralement, puisque au moment où nous enregistrons, est en train d'être diffusée une musique de Dave Porter pour la comédie The Disaster Artist, l'histoire du réalisateur de The Room.
Tommy Wiseau, ouais.
Deux et avec James Franco. Et juste avant, si vous m'aviez posé la question une minute auparavant, on était en train d'écouter du Graham Revell sur les chroniques de Riddick.
Oui.
Un peu oublié, hélas, mais plutôt sympa aussi. Donc, vous avez un peu de tout.
Oui.
Évidemment, vous avez du Giacchino, en fait, tu en vois là, hein, sur lagrandeévasion.fr.
Ça, il y en a pas mal, des Giacchino, ouais.
Et nos êtres de lumière, qui donc contribuent très généreusement au podcast de Total Tracks, certains d'entre eux contribuent également au Tipeee de lagrandeévasion.fr.
Mais on les encourage à le faire de plus en plus nombreux parce que il faut soutenir des initiatives telles que celle-ci, des musiques de films qu'on peut écouter gratuitement comme ça en allant sur un site internet. C'est quand même génial.
C'est pas moi qui vais dire le contraire, hein, d'autant plus que vous avez tout le temps l'actu, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps des nouveautés. J'en ai ajouté encore ce matin, pas tous les jours, mais presque. Donc c'est aussi un bon moyen de vous tenir au courant de ce qui est le plus écoutable dans l'actualité de la musique de film. Les trucs tout pourris, par contre, il n'y en a pas beaucoup.
Bon, allez, on se quitte avec ce morceau de Jurassic World. Et c'est le end title, c'est ça?
C'est le générique de fin, ouais.
Parfait. Avec tous les morceaux, tous les thèmes.
Avec tous les thèmes. Alors, du premier et du deuxième.
C'est Jurassic World Fallen Kingdom.
Excusez-moi.
S'il te plaît, David.
Oui, oui. Jurassic World Fallen Kingdom. Et c'est donc le end title qu'on écoute tout de suite. À bientôt, les amis.
À la semaine prochaine. Des
salut,
bisous.
David.
Bisous.